Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui l'auteur et comédienne Évelyne de la Chalonnière, qui s'est imposée comme une des dramaturges les plus originales de sa génération. En compagnie d'Aline Apostolka, animatrice des médias littéraires de la Grande Bibliothèque, vous découvrirez ses sources d'inspiration, ses rituels d'écriture et les aspects de sa vie qui ont fait naître le désir de création. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Veuillez noter qu'une sélection des œuvres d'Évelyne de la Chalonnière est actuellement présentée au comptoir de service de la section Arts et littérature au premier étage de la Grande Bibliothèque. Avant de céder la parole à Aline Apostolka, je vous convie au prochain Midi littéraire en compagnie d'Émile Martel le 14 avril prochain. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos, d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail Internet de BANQ. Merci aussi d'éteindre vos téléphones cellulaires et bonne rencontre.
Bonjour. Bonjour et merci d'être là pour ce dernier midi littéraire de l'hiver. Puis on va croiser les doigts en disant ça. Aujourd'hui, nous poursuivons, je disais, une série, mais en fait, dans la série, il y avait Michel-Marc Pouchard l'année dernière, à peu près à la même époque. Dans ce midi littéraire, nous sommes toujours désireux d'accueillir des créateurs de mots d'horizons divers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une auteure jeune qui a pourtant un parcours littéraire déjà important et dès le départ remarqué. Elle a étudié le théâtre à l'école Michel Granval à Paris, puis ici à Montréal avec Paul Pelletier. Elle est devenue comédienne, mais très vite elle écrit un premier texte, rapidement suivi d'autres, qui installent un style alerte et une langue québécoise d'aujourd'hui. Un regard lucide et acerbe sur les relations contemporaines, les failles et les tendresses qui unissent les humains. Son écriture scrute et révèle des scènes de la vraie vie, jamais ordinaires, et qui soudain devient aussi grande ou plus grande que nature. Impliquée avec le Nouveau Théâtre expérimental depuis 2001, on pourrait paraphraser la devise de ce théâtre pour parler de ses textes. Elle écrit dans ses pièces ce qu'elle ne trouve pas écrit ailleurs, surtout pour les adultes et apparentés, mais aussi pour les jeunes. Souvent, elle joue dans les pièces et souvent aussi les met en scène ou participe à la mise en scène. Ainsi, avec quelques 15 pièces en une dizaine d'années, traduites en anglais au Canada, mais aussi en allemand, en écossais, jouées à Carleton, à Montréal, à Saarbrücken ou Édimbourg, entre autres, reprise par plusieurs théâtres, beaucoup au Canada, mais aussi sur la planète. Elle a également reçu le prix du gouverneur général pour le théâtre en langue française en 2006. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Évelyne de la Chenelière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, voilà, merci. C'est votre place.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça me fait très plaisir. Merci à vous d'être là. Il fait beau, hein? C'est dur de s'enfermer. Ça me fait plaisir que vous soyez là aussi.
C'est ça, mais parfois, il se passe des choses plus intéressantes à l'intérieur. C'est pas à vous que je vais apprendre ça.
Oui, ben oui, c'est toujours... c'est ça, le théâtre aussi, hein? C'est une boîte noire, puis... on fait naître quelque chose dans cette boîte-là.
Alors là, la fenêtre, on va l'ouvrir sur vous. Comme je disais, c'est une entrevue dans le parcours et sur le processus, c'est-à-dire à la fois le théâtre québécois à travers vous et puis vous à travers le théâtre des 10 dernières années. C'est vrai que c'est un parcours fructueux, riche. Et on va essayer de remonter, mais beaucoup plus loin encore, pas seulement dans les 10 dernières années, mais depuis le début. Alors, ceux qui connaissent la série savent que la première question a l'air d'une question de police, mais c'est juste pour mettre l'ambiance. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Ah, bon, alors, mon nom de la Chenelière, Évelyne, je suis née à Montréal, le 31 juillet 1975.
C'est ça, c'est ce que je disais, c'est une jeune auteure, mais avec un parcours intéressant. Vous êtes née dans quel quartier de Montréal?
Dans Notre-Dame-de-Grâce. Oui.
Et qui étaient vos parents? C'était déjà un milieu...
Mes parents étaient dans l'édition, mais d'ouvrages didactiques, de manuels scolaires. Et puis, ma mère s'est réorientée, elle est travailleuse sociale. Puis mon père a poursuivi dans l'édition. Donc, je viens d'un milieu assez privilégié, mais pas vraiment non plus. Je n'ai pas baigné dans le théâtre ou dans la culture de cette façon-là. Comme plusieurs personnes de ma génération, mes premières expériences de spectatrice de théâtre ont été organisées par l'école secondaire, où on allait assez systématiquement au théâtre Denis Pelletier, la NCT à l'époque. Donc c'était un répertoire très classique. J'ai pas vu de création comme telle, donc de nouvelles pièces, de création avant d'être une jeune adulte, en fait.
Mais déjà avant l'école secondaire, si on se concentre sur votre enfance, qui était la petite Evelyne dans votre enfance? Est-ce que vous étiez une enfant sociable ou plutôt plongée dans les livres ou...
Je crois que c'est assez juste de dire que j'étais timide, mais je combattais cette timidité-là en souvent m'imposant le rôle du bout en train, de quelqu'un qui veut faire rire les camarades, faire rire ses parents, faire rire sa sœur. J'ai le souvenir d'avoir déployé beaucoup d'énergie pour faire rire. J'étais fatiguée.
Ah oui?
Oui.
Pourquoi s'imposer ce rôle? Vous avez dit s'imposer ce rôle.
Mais parce que je crois que dans l'enfance, souvent, plus ou moins consciemment, on essaie de correspondre à l'idée qu'on se fait de ce que les gens attendent de vous. Et puis, par je ne sais pas quel mystère, moi, j'avais cru comprendre que c'est ce qu'on attendait de moi.
Sortir de soi. Est-ce que c'était par rapport, vous avez dit, à vos sœurs ou c'était le rôle que vous vouliez vous donner au sein de la cellule familiale?
Ben, pour tout vous dire, je trouvais que je baignais dans une atmosphère assez lourde. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ressentais le besoin d'alléger cette atmosphère, de m'octroyer cette mission de rigoler, de respirer un peu.
Est-ce que vous entendiez mieux avec votre père ou avec votre mère?
J'étais proche de mes deux parents pour des raisons très, très différentes. Ils sont très différents, puis la relation avec chacun d'entre eux était aussi très différente. Mais dans ma famille, le lien le plus intime et le plus privilégié était avec ma grande sœur, qui, elle, était quelqu'un de très, très plongé dans les livres et la lecture et la connaissance, quelqu'un d'assez sérieux, que très vite j'ai admiré et eu envie d'imiter, mais avec un peu de mal.
Est-ce que c'était pour lui ressembler ou au contraire pour être dissemblable d'elle et être remarquée?
J'aurais aimé lui ressembler bien davantage, mais... J'en avais pas les capacités intellectuelles.
Est-ce que c'est un lien qui perdure?
Oui, je suis très proche d'elle. Elle a une carrière scientifique. Elle vit à Tadoussac. Elle vient régulièrement à Montréal, justement parce que c'est une femme qui aime beaucoup la culture aussi, puis elle a besoin de se baigner là-dedans aussi. Donc, on a eu des parcours très, très différents, mais Je considère qu'elle m'a beaucoup influencée comme enfant, puis comme femme aussi.
Est-ce que vous diriez que, donc, dès l'enfance, vous aviez besoin d'inventer un monde, en fait, qui n'était pas exactement celui que vous aviez au quotidien?
Oui, peut-être une sorte d'échappatoire qui est rapidement passée par l'écriture aussi. Un geste assez banal, j'en suis consciente. Je veux dire, plein de jeunes filles et de jeunes garçons aussi passent par l'écriture d'un genre de carnet, journal intime pour déverser ses états d'âme et se sentir important. J'ai largement fait cet exercice.
Dès le départ, ça veut dire déjà à l'école primaire, par exemple, quels sont les souvenirs que vous avez de vous dans ce premier contact avec l'école? C'était un lieu que vous aimiez?
Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup, parce que j'étais intéressée par ce qu'on m'enseignait. J'avais une énorme... J'étais pleine de compassion pour mes professeurs au fil des années. Je trouvais que ça avait l'air d'être un métier terriblement difficile.
Oui.
J'étais complètement même parfois affolée pour eux. Je me demandais comment ils réussissaient à garder le moral. Alors, pour compenser, j'essayais de les regarder dans les yeux puis de leur montrer que je suivais puis que j'étais avec eux. Quand j'y repense, c'est vrai que j'étais beaucoup... En fait, oui, j'étais intéressée, mais j'étais davantage animée par le désir qu'ils passent un bon moment en classe, qu'ils passent une bonne journée auprès de nous. C'était ça mon sentiment dominant.
Presque un rôle inverse, quoi. Quasiment inversé.
Mais oui, parce que je trouvais que c'était tellement ingrat. Ils étaient là debout à se démener, personne ne s'intéresse, tout le monde est à la récréation. Ça me rendait triste pour eux, alors je voulais un peu compenser cette perception que j'avais, en tout cas.
Quelles étaient les matières que vous préfériez, finalement?
Oh, le français.
Oui.
J'adorerais ça, le français. Ça paraît une évidence, là, mais c'est pas tous les gens qui écrivent qui aiment le français. Mais
en fait, pas du tout, parce qu'ici, on a dans la série des écrivains qui ont fait de grandes carrières et qui ont dit... Enfin, je veux dire, c'est pas aussi évident que ça. On peut très bien s'être intéressé à la littérature beaucoup plus tard ou pas du tout, ou avoir appris à lire. Une auteure avait dit ici dans l'encyclopédie médicale ou dans la Bible ou bon, enfin dans
oui,
des
oui.
choses.
Dans mon cas, même avant la littérature, je me rappelle que le français, comme la grammaire, cette organisation de la langue me semblait vraiment intéressante. Je trouvais que c'était fascinant, ce système pour échanger des idées. J'étais éblouie par ça. Par le fait qu'en déplaçant tel mot, la phrase change complètement de sens. Je trouvais ça intéressant.
Mais c'est ça, mais c'est déjà tout un jeu aussi de la construction de la phrase. Dites-moi, à quoi ressemblait Montréal? Je pense qu'on n'a pas eu encore dans cette série une auteure aussi jeune que vous et qui puisse nous parler. On a eu des auteurs qui nous ont parlé de Montréal dans les années 40 ou 50, mais quel est le souvenir que vous avez de Montréal dans les années, fin des années 70, début 80, en fait? Est-ce que c'est des années très intéressantes?
Mais j'ai le souvenir d'être très, très, très peu... Et je vois que mes enfants sont différents. Très peu au courant, très peu sensible à ce pouls-là, soit de la ville, soit politiquement. Pour moi, c'était vraiment réservé à quelque chose qui m'appartiendrait plus tard. Je ne saurais pas nommer la raison, mais j'ai grandi dans mon souvenir avec un sentiment d'être assez... de me sentir assez extraite de tout ça et d'être... plutôt en observation de mes proches, de mon cercle d'amis, de ma famille, mais je me sentais comme une étrangère à Montréal, en fait. Je m'en suis rendu compte plus tard, parce que j'ai eu le sentiment de grandir presque en banlieue, parce que c'était un quartier dans l'Ouest.
Et c'est pour ça, est-ce que c'est à cause du fait que Notre-Dame-de-Grâce est un peu au bout de l'île?
Oui,
donc...
oui.
Oui?
Mais je crois que oui aussi, parce que c'était... tout le reste de la ville, j'y allais très peu. Hein. J'étais assez confinée à ce quartier-là qui était très anglophone. Ça me rendait très, très timide aussi, cet aspect-là, parce que je ne maîtrisais pas l'anglais. Commerçants...
Ça pouvait isoler.
Oui, oh oui, puis c'est très différent aujourd'hui. Parfois, j'y retourne, mais à l'époque, les commerçants parlaient seulement en anglais. C'était à l'école... ça commençait, là, la loi 101, tout ça. Là, ça devenait interdit de parler anglais dans les corridors. Ça devenait une grosse, grosse polémique. Les enfants qui trouvaient que c'était injuste de ne pas avoir le droit de s'exprimer en anglais alors qu'ils n'étaient pas en classe. Tout ça.
Nicole Brossard, qui était assise ici le mois dernier, qui a aussi grandi dans l'ouest de la ville, mais bon, à une époque très, très différente, nous disait que l'aventure, c'était l'est de l'île. Est-ce que vous aviez un peu cette image-là aussi ?
Oui, je dirais même plus près que l'est, tout ce qui n'était pas l'ouest, en ce qui me concerne. J'étais.
À quel moment vous êtes sortie de cette bulle ?
Quand j'étais à l'école secondaire, puis qu'on commençait plus à faire des choses le soir avec les amis, tout ça, il y a tout un monde qui s'est ouvert. Et puis, mais rapidement, ça a été une envie de partir plus loin. C'est ce qui fait que dès que j'ai fini le cégep, je suis partie en France.
Où est-ce que vous alliez à l'école secondaire à ce moment-là?
J'allais à Villa Maria.
Oui, donc quand même déjà un peu plus...
Tranquillement. Non, mais je suis consciente que c'est aussi un bassin assez... un petit cocon, mais là, je fais en sorte qu'on fréquente de plus en plus de monde, qui ne vont pas forcément au collège qu'on fréquente, les garçons, tout ça. Alors, on baignait avec des gens très, très différents les uns des autres, puis très, très différents de ma famille. C'est à partir de cet âge-là qu'on se rend compte que ce qu'on prenait pour la normalité, qui était notre petit univers familial, ben, que la normalité est relative.
Mais aujourd'hui, vos pièces sont pour le moins au cœur du pouls de la ville, de l'urbanité aussi. Et à quel moment vous est venue cette passion de l'observation aussi urbaine, de dialogue entre les personnes, de toute la pluralité des conditions sociales? Est-ce que c'est déjà venu dans l'adolescence? Est-ce que c'est déjà une époque à laquelle vous pensez à un futur métier d'écrivain de théâtre et de dramaturge?
Alors, c'était pas clair de cette façon-là. J'associais aussi... j'étais très attirée par les métiers de la scène, puis la création, mais pour des raisons que je ne sais pas m'expliquer, j'associais ces métiers-là à des métiers d'ego, à des métiers de... à quelque chose d'un peu monstrueux que j'avais peur ou pas envie d'associer à ma personnalité ou à la personne que je souhaitais être. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à coup, je trouvais que ces envies-là manquaient profondément d'humilité. Je n'aimais pas ces envies-là chez moi. Avant que je les accepte, que je les comprenne, puis que je découvre que c'était... oui, bien sûr, une certaine prétention à vouloir convier les gens à sa parole ou à sa façon de voir le monde. C'était aussi un acte généreux, courageux, exigeant. Mais c'est comme si tous ces adjectifs...
Il y a d'autres façons d'exercer ce métier. Ce n'est pas obligatoirement formaté comme ça l'était, mais ça renvoie au fait qu'on est rendu où, là, à peu près au milieu des années 80. Peut-être qu'à cette époque-là, le théâtre québécois, bon, pourtant, était en plein foisonnement et justement présentait des visages très différents.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Si on pouvait choisir ces envies profondes, les sélectionner selon ce qui nous apparaît le plus noble ou le plus... ce vers quoi on aimerait tendre, ben, ça aurait été pour moi Médecins sans frontières, des choses bien, pas du théâtre.
Par quelle pièce ou par quels auteurs finalement donc êtes-vous, qu'est-ce qui vous donnait cette envie d'avoir un métier de la scène? Dans l'adolescence, quelles sont vos lectures et vos modèles?
Étonnamment, c'est passé beaucoup plus par le roman que par le théâtre. Mm-hmm. J'ai eu des chocs littéraires qui ne correspondent pas nécessairement aux auteurs que je préfère aujourd'hui en faisant le bilan de mes lectures, mais qui correspondent à une espèce de moment tellement propice pour rencontrer ce livre ou cette parole. Ces chocs-là littéraires qui ont été jusqu'à des chocs physiques, je veux dire, c'était des sensations très, 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 très fortes. Je me suis aperçue de la puissance de la fiction qui vraiment peut mettre en lumière telle ou telle chose qui fasse en sorte qu'on se sente moins seul. Et je le pense encore aujourd'hui parce que des fois, les liens qui nous unissent puis les échanges qu'on fait font en sorte que, justement, on se trouve des ressemblances, on se trouve des similitudes, puis là, on se sent moins seul parce qu'on fait « Ah, toi aussi, tu te sens comme ça, moi aussi, etc. » La vie fait ce travail-là, si je puis dire.
Oui.
Mais la littérature, elle en fait beaucoup plus parce que la littérature, elle se contente... Elle fouille, puis elle décrit précisément des phénomènes qu'on peut ressentir, mais qu'on nommera jamais entre nous. Puis tout à coup, ces phénomènes-là se retrouvent dans un livre. Alors, ils sont quelque part cautionnés par quelqu'un comme quelque chose qui puisse exister, qui puisse même être éventuellement intéressant au point de les mettre dans un livre. Je veux dire, ça aide, ça, je trouve.
Vous pensez à quel livre et quel auteur? Si comme ça, spontanément, si vous pensez à cette période-là, quels ont été les chocs?
Je pense à Régent Ducharme, La vallée des avalées, qui est souvent le premier livre de Régent Ducharme qu'on lit là, dans l'adolescence, à La vie devant soi de Romain Gary, à tout Victor Hugo aussi. J'ai comme eu une grande période Victor Hugo. Et ouais, ça, ce sont des moments forts que je peux nommer.
C'est tous ces personnages qui cherchent une place, effectivement, aussi.
Oui.
Une marginalité qui, en même temps, qui est formidable et qui est aussi une liberté, mais qui cherche sa place aussi.
Oui. Mais je crois que tous ceux qui ont besoin de poser un acte créateur, que ce soit dans l'écriture ou dans d'autres modes d'expression, sont des gens qui se questionnent sur le monde et sur leur place dans le monde.
Puis qui ont besoin de se créer de toutes pièces, en fait, d'une certaine façon.
Je sais pas.
Si on pense justement, c'est une façon de à la fois déconstruire le monde qui est proposé et puis de le rebâtir de toutes pièces.
Oui, mais parfois, plus que de le rebâtir, j'ai le sentiment, que quelqu'un d'autre pourrait vivre ça autrement, mais moi, j'ai pas tant le sentiment de le déconstruire que de tenter de le dépecer, d'en faire l'autopsie, de le découvrir d'une autre façon. Parce que souvent, je me suis posé la réflexion, qu'est-ce qui fait qu'un auteur est un auteur? Est-ce que c'est parce qu'il a des idées tellement plus intéressantes que les courants de pensée populaires ou que tout un chacun qui réfléchit mais qui écrit pas? Puis je pense pas que ça se situe à ce niveau-là, mais c'est simplement que par la force des choses, le temps qu'on met à réfléchir à telle chose ou à s'enfoncer dans telle avenue, dans telle zone de la pensée, dans telle réflexion, ce temps qu'on y met nous fait forcément aller plus loin que la simple pensée qui est intégrée à la vie quotidienne puis qui est embrouillée par tous les gestes qu'on pose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, enfin, encore une fois, d'après moi, le temps de tout arrêter pour ne faire que penser. Que penser, que regarder et que essayer de transcender le regard le plus facile ou le plus spontané qu'on pourrait poser sur les choses et sur les gens. C'est ce temps-là qui fait des œuvres d'art, d'après moi.
Oui, qui fait qu'on va aller regarder derrière, justement, peut-être derrière ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de représentation de l'ego ou de ce qui est donné en avant-scène. en fait.
Oui, oui. Et ce qui est... Oui, exactement. Et il faut avoir, je crois, aussi l'humilité de constater que mine de rien, on est tous de la même époque. Bon, bien sûr, on a des parcours individuels qui nous distinguent les uns des autres, évidemment, mais à la fois, on est beaucoup plus semblables qu'on ne le prétend dans notre façon d'aborder les choses, dans notre façon de faire des liens de cause à effet, parfois simplistes, etc. Donc pour écrire, la moindre des choses est de se forcer pour aller plus loin que ça, ou en tout cas de tordre l'angle, d'éclairer, d'éclairer les choses d'une manière dont on espère qu'elle soit un peu nouvelle, ou en tout cas qu'elle...
Donc ça reviendrait à dire que vous aussi, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là, mais parce que vous seriez une auteure d'une sorte d'immuable de l'humain. Il y a beaucoup de gens de la littérature qui disent ça, ces choses qui sont immuables, qui font que finalement l'être humain, est-ce qu'il a tellement évolué depuis tellement de millénaires, et qui fait qu'on peut comprendre une pièce de théâtre grecque encore aujourd'hui, qu'elles sont, sauf dans la forme et dans l'expression, pas très éloignées de cet immuable-là.
Oh oui, je pense ça. Je pense que profondément... Et fondamentalement, on est construit à l'intérieur par les mêmes choses que depuis des siècles. Et c'est pas pour rien que les histoires d'amour sont vieilles comme le monde. Je veux dire, aimer et être aimé, c'est quand même... c'est pas un désir contemporain, là.
Mais qu'est-ce qui fait que, justement, à un moment donné, vous avez, vous, parce que ça arrive très vite... Quand on regarde dans votre parcours, ce que j'appelle moi très vite, c'est-à-dire que c'est 97, le premier texte que vous écrivez, alors vous avez 22 ans.
Oui.
Donc, c'est personnage secondaire, mais qu'est-ce qui fait que vous franchissez le pas, ce premier pas qui est toujours tellement déterminant, qui est de se dire, bon, voici une bibliothèque dans laquelle il y a la bibliothèque du monde, il y a des milliards de livres dedans, et puis voici que je vais pousser ma petite voix. Et que je vais oser le faire et l'inscrire sur le papier. Est-ce qu'il faut de l'inconscience ou de l'ego ?
Les deux, et beaucoup. Non, non, mais je dirais surtout de l'inconscience, ou en tout cas surtout faire fi de ça. Ouais. Mais je vous dirais pas seulement à l'époque. Aujourd'hui, demain, quand j'écris, cette pensée-là me traverse très, très souvent, de dire, mon Dieu... Cessons. Je veux dire, surtout aujourd'hui, tout le monde est auteur, tout le monde est intéressant, tout le monde est créateur, tout le monde... Même, je trouve que de plus en plus, ce geste-là est banalisé et multiplié. Donc, de tout à coup avoir le vertige de se dire, mais alors, je vais arrêter, je veux dire, à quoi bon? On nage dans l'abondance de gestes créateurs, mais... Mon devoir, c'est de chasser ça, puis de travailler. J'utilise souvent l'image, pour moi, elle me parle beaucoup. Quand je parle de ma façon de travailler, c'est que, oui, on est très, très sensible à tout ce qui se passe. Et des fois, cette sensibilité-là peut nous faire tomber dans le piège de trouver que tout est futile devant ça, devant la catastrophe. Mais à un moment donné, il faut arrêter, justement. Et au contraire, il faut arrêter de s'ouvrir et il faut faire comme le cheval de trait qui fait son travail. Mm-hmm. Il faut. Sinon, en tout cas, moi, j'ai besoin de faire ça parce que sinon, j'arrêterais.
À quel moment est-ce que s'impose clairement, ou est-ce que ça s'impose clairement, je sais pas, c'est pas obligatoire non plus, le fait que vous décidez que c'est votre place et que vous allez prendre celle-là, que ça va être votre métier. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est exprimé, ou c'est venu dans des circonstances qui se sont accumulées, etc. Parce que d'abord, avant ça, il y a l'épisode où vous partez en France pour faire des études de théâtre, puis vous revenez à Montréal, vous étudiez aussi le théâtre. Est-ce qu'au départ, c'était pour être comédienne? Comment est-ce que ça s'est passé, ce passage-là? C'est un bon français. Comment est-ce que ça s'est passé, ce passage-là?
C'est dur pour moi de me rappeler bien des événements, mais je sais que pour moi, on ne peut pas s'auto-déclarer femme de théâtre. On a beau faire des études, c'est très délicat de se désigner soi-même ou de se nommer soi-même précisément dans un métier comme celui d'artiste. Je crois qu'on a toujours besoin d'une rencontre de quelqu'un qui va, quelque part, vous désigner ou vous souhaiter la bienvenue ou vous montrer que vous avez votre place, justement. Mmh. Et dans mon cas, ça a été la rencontre avec l'homme de théâtre Jean-Pierre Ronfard, notre regretté Jean-Pierre Ronfard. Et je crois que il m'a aidée à plein de niveaux, mais ne serait-ce que comment lui abordait la création de cette façon faussement désinvolte, parce que c'était un homme très, 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 très réfléchi, mais qui se lançait avec une telle presque nonchalance dans l'acte créateur, sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin de prouver que c'était intéressant ou pertinent, mais simplement cette espèce d'envie brute. Mm-hmm. Mais, et c'est là où ça devient un grand homme de théâtre, c'était une envie brute, mais qui reposait sur une richesse intellectuelle plus que considérable. Mais tout ça, cette permission était contagieuse. Cette permission qu'il se donnait, il la donnait à son entourage. Et quand il m'a d'abord engagée comme comédienne, mais très, très vite, c'était presque irrésistible. Je lui montrais que j'écrivais aussi, puis que je m'intéressais à aborder le théâtre, mais d'une façon plus vaste que simplement en étant interprète, de vraiment chercher avec lui ou auprès de lui ou aidé par lui. Puis il a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ça. Il n'a pas... sans doute qu'il était conscient que c'était plein de maladresse et de naïveté, mais à la fois, il a su accueillir cette permission que je me donnais aussi en le regardant.
C'est vrai qu'il était comme pour beaucoup, sans doute, de personnes et à cette époque-là. Lui, il était là quand même déjà depuis un bout de temps. L'incarnation de la preuve qu'on pouvait non seulement aborder ce métier millénaire avec une fausse désinvolture, mais aussi l'exercer dans les faits différemment.
Oui.
Et créer des structures différentes aussi pour faire exister cette différence.
Oui. Alors pour moi, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi parce que là, non seulement je découvrais la création, mais je découvrais l'expérimentation qui est l'essence de ce théâtre-là. Alors, c'était doublement excitant. Et puis après, bien évidemment, les gens qui entouraient Jean-Pierre Ronfard, bien, par la force des choses, on a trouvé des affinités artistiques tous ensemble, puisque chacun d'entre nous était sensible à cette façon d'aborder le théâtre et la création. Et donc, j'ai rencontré Daniel Brière, qui est mon conjoint aujourd'hui. On a fait du théâtre ensemble, on continue à en faire ensemble. Il y avait Gary Boudreau, qui était directeur d'un théâtre à Carleton, qui a été... la première fois que j'ai été montée professionnellement, c'était dans son théâtre à lui. C'était tout un monde.
C'est un réseau, après, finalement, de semblables. Je voudrais qu'on revienne sur l'épisode où vous partez à Paris pour faire vos études à l'école Michel Grandval. Pourquoi avez-vous fait ce move-là? Qu'est-ce que vous avez voulu aller chercher là et à Paris? Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ou pas trouvé, je ne sais pas.
Oui, ben y a des raisons, pour être très, très franche, là, c'est des raisons un peu adolescentes, mais c'est normal, j'étais adolescente, qui m'ont fait...
Ben oui, c'était oui. La fin de l'adolescence. Oui. Vous partez à quel âge, en fait, là?
J'avais 18 ans.
Oui.
Ben, 17 ans. En fait, moi, j'étais très, très en révolte contre le fait que je vienne d'un milieu favorisé. J'avais une conscience aiguë que j'avais été dans les écoles privées, j'avais été très privilégiée, j'avais manqué de rien, et j'avais besoin de me dissocier de ça. Et alors, par cette astuce, je me suis dit, ah, si je reste ici, ben là, je vais être avec mes parents, ils vont payer mes études, puis là, je vais faire le petit parcoursage de tout ce qui est prévu pour moi. Alors, j'ai dit, ah, mon père est français d'origine, alors j'ai fait la demande de ma nationalité pour pouvoir aller étudier gratuitement en France. Parce que là, je me suis dit, ah, l'éducation en France est gratuite, puis j'avais comme...
C'est vrai.
Je me disais comme ça, puis là, je vais avoir le droit de travailler parce que je vais avoir ma carte de française, puis je vais étudier gratuitement, puis je vais être comme une vraie étudiante pas trop soutenue par ses parents. Ça m'excitait beaucoup. Alors, je suis partie beaucoup pour ça, pour l'envie d'aventure aussi, mais j'ai quand même le sentiment que tout le reste était assez accessoire. Je voulais me débrouiller dans la vie très, très vite. Mmh.
Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là, mais en même temps, je l'entends bien. Je comprends ce que ça veut dire. C'est vrai qu'en même temps, il y a aussi cette caution, entre guillemets, parce que les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça en France, c'est parce que ça fait longtemps qu'il a été décidé qu'on devait être jugé à son propre mérite. Justement, dans un pays de privilèges.
Oui, oui, que c'est ça, l'éducation nationale.
Un des avancements majeurs est d'avoir imposé ça, par exemple.
Oui. Ben, ça. J'avais besoin de ça. Puis après, une fois là-bas, c'est sûr, ça a été difficile pour plein de raisons. C'est un grand choc culturel. C'est toujours c'est toujours la même histoire. On a le sentiment qu'on partage la même langue et que ça va être plus simple, mais c'est quand même très, très différent, la mentalité française et québécoise.
Est-ce que vous aviez des liens avec votre famille paternelle, déjà?
Oui, mais ils n'étaient pas à Paris, mais oui. Non, je me sentais à cheval entre ces deux cultures-là, quand même, de par mon père, mais là, c'était quand même tout un... Je me sentais étrangère, quand même.
Est-ce que justement, parce qu'on peut imaginer qu'autant ici, et d'ailleurs, c'est pas très loin du parcours de Jean-Pierre Onfard, qui est aussi le fait qu'ici, c'était tout un nouveau théâtre qui se mettait en place, toute une autre façon de le penser, de l'écrire, un autre public, une autre façon de s'autoriser à être à la fois un artiste et un auteur de théâtre. Et en France, surtout à cette époque-là, il y avait encore... beaucoup d'establishment. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça?
Ben, j'ai vécu. Je suis pas restée assez longtemps pour me permettre là de défendre une analyse précise de quel était le milieu théâtral, etc. Mais ce qui est flagrant, c'est que la place au Québec, enfin à Montréal, pour ce que je connais, la place accordée, la place et l'intérêt et la tribune accordée à la relève, aux jeunes initiatives, aux jeunes compagnies. C'est énorme par rapport à ce qui se passe à Paris. À Paris, ben, vous êtes noyé dans tous ces théâtres qui sont déjà tellement, tellement abondants, puis tellement lourds d'histoires, de répertoires, d'auteurs. Et c'est ça c'est ça aussi qui a fait que je suis revenue à Montréal, c'est parce que je voyais pas d'avenue trop à Paris. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est ce grand avantage là que je trouve à Montréal, donc de cette place et de cette curiosité pour la relève. Contient aussi sa part de sa part d'ombre, parce que le phénomène qui accompagne ça est un phénomène où on vit une espèce de culte de la jeunesse, de la nouveauté, de la spontanéité, et c'est dangereux aussi parce que ça noie tout dans Ça noie tout ensemble, les parcours, les parcours d'artistes qui ont à travers les années développé quelque chose, construit quelque chose, sont traités de la même façon que la première initiative d'un finissant qui jette quelque chose sur le papier.
De tout regarder au même plan.
Oui, oui.
Mais en fait, c'est comme si vous étiez allé chercher tout de même une part de liberté personnelle aussi, parce que c'est aussi une affirmation de décider de partir, de vivre sa vie, de faire sa vie à Paris. Mais en même temps, d'y trouver moins de liberté réelle sur le fond.
Oui, mais à la fois, peut-être que c'était nécessaire aussi pour justement, une fois là-bas, des fois, on se découvre une audace qu'on n'aurait pas forcément chez soi. Et je crois que c'est une audace que j'ai découverte là-bas, que j'ai ramenée avec moi. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'en ai eu besoin parce que justement, vous parliez de réseau. Le oui. propre de la formation dans les écoles de théâtre, au-delà de la formation acquise, c'est aussi la richesse de tout un réseau qui se crée. Là, quand je suis revenue, je ne connaissais personne qui faisait ce métier-là ou qui avait étudié en théâtre.
Quand vous revenez, si vous vous souvenez de cette période-là, c'est la fin des années 90, on va dire.
Oui.
Vous revenez à Montréal, qu'est-ce que vous trouvez? Quel est votre souvenir de ça? Est-ce que vous vous sentez des ailes d'un coup?
Oui, je me sens des ailes pour plusieurs raisons. Je suis dans une urgence de travailler par désir, mais aussi parce que donc j'ai quel âge? J'ai 21 ans. Puis j'ai ma première petite fille. Alors je suis une maman très jeune. Et puis c'est sûr que ça change beaucoup de choses. J'ai énormément de joie dans cette maternité-là, mais aussi énormément d'angoisse parce que je me dis, mon Dieu, il faut que je travaille. Puis j'ai tout sauf envie de renoncer à ce que j'ai envie de faire. Alors c'est une période... J'en garde des beaux souvenirs, mais c'est une période très difficile parce que, oui, j'écris, oui, je fais un peu de théâtre, mais je fais aussi des boulots que j'aime pas. C'est très précaire. Donc, c'est une période comme ça, puis je la regrette pas, mais c'est...
Mais éminemment créatrice.
Ah oui, oui, oui.
C'est une sorte de Big Bang, là, à ce moment-là. Vous êtes dans une... De...
Oui, une espèce de compulsion.
De marmite.
Oui, une compulsion d'écriture, une envie que les choses se passent vite. Ça a donné le meilleur comme le pire, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai faites trop vite. Mais c'est pas grave. Mais ça a donné aussi le meilleur parce que ça a donné justement cet appétit qu'a su déceler des gens comme Jean-Pierre Ronfard, justement, et qui m'ont ouvert leurs portes.
Avoir des enfants très jeunes, c'est souvent tout ou rien. C'est soit ça, au contraire, c'est comme une sorte de défi de se concentrer sur l'essentiel, ou alors de perdre l'essentiel de vue parce que d'un coup, on est pris... mais c'est souvent à ce moment-là qu'il faut faire des choix drastiques. Parce qu'ils sont généralement à long terme, contrairement à ce qu'on imagine.
Oui.
Comment vous avez pris la bonne tangente, quand même?
Je considère que ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a fait me dépasser. J'avais envie de me construire et d'offrir éventuellement à cet enfant-là et à ceux qui allaient venir. J'avais envie de correspondre à quelque chose que j'aimerais de moi, ou en tout cas au moins en partie. Donc c'est sûr que ça donne du courage, ça donne de l'énergie.
Oui.
Beaucoup d'énergie. Et puis aussi, j'ai aussi agi, je le dis, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai aussi agi avec, par orgueil parce que mon état de jeune maman rencontrait beaucoup de désapprobation autour de moi. Certains individus m'ont beaucoup encouragée et se sont réjouis avec moi, mais globalement, ce que je sentais et de ma famille et de mes amis et de la société, c'était de la désapprobation. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Pourtant, je n'avais pas 15 ans. Mais quand même, il y avait un désordre là. Il y avait quelque chose, que je n'avais pas fait dans l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça m'a fouetté beaucoup, beaucoup.
Mais alors, en même temps, c'est comme vraiment ce que la création fait toujours. C'est-à-dire qu'elle jaillit d'un réseau de contraintes qui devrait l'empêcher.
Oui, souvent, c'est vrai que...
Elle devient une nécessité vitale, pour une raison ou pour une autre, mais elle s'exprime parce qu'elle finit par trouver son chemin là où c'est improbable qu'elle trouve son chemin.
Oui, je suis d'accord avec vous. Souvent, on ne sait pas... On ne devine pas que justement tel chemin, tel détour, telle expérience va être déterminante par rapport à tel objet artistique qui sort ou telle œuvre littéraire. On ne s'en doute pas. Puis c'est tant mieux parce que sinon, on vivrait avec calcul, ce qui serait terrible, ce qui serait dommage.
Mais c'est-à-dire que l'ordre des choses que vous évoquez, qu'on vous reprochait de ne pas suivre, s'applique peu à la création, s'applique encore moins à l'écriture, non?
Ah oui, c'est sûr. Mais on vit quand même dans une société où, et c'est encore vrai, je veux dire, c'est pas pour rien que les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard. C'est pas pour rien, c'est parce que dans ce qui semble la bonne chose à faire, c'est une quantité de critères à avoir acquis avant même de songer à faire des enfants. La liste est longue maintenant là, pour se considérer comme étant et prête et que ce soit une bonne chose pour l'avenir et ceci et cela. Puis je porte pas de jugement là-dessus parce que c'est vrai que c'est un acte important de donner la vie, puis c'est normal d'y réfléchir, mais à la fois, il y a quelque chose de tout aussi naturel à ne pas y réfléchir tant que ça, d'après moi, parce que c'est naturel aussi.
En tout cas, j'y pensais récemment pour d'autres raisons, j'ai eu une discussion là-dessus, sur le fait que c'est et un livre et un enfant, ou une création et une création de chair. Alors que ça renvoie, parce que vous parlez de la création féminine, mais enfin, c'est pas très loin l'époque où on était encore frappé d'interdit papal et qui disait que les femmes ont dû choisir pendant des siècles, très longtemps, à peu près jusqu'au 20e, milieu du 20e, fin 19e, 20e, entre les enfants et les créations, parce que les deux étaient impossibles. Donc, mais... Pour avancer, bon, là, c'est vraiment, c'est la genèse, on va dire, la genèse. Pour avancer, on peut dire que ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que dès le départ, depuis que vous parlez déjà de la petite enfance, vous vous présentez aussi comme ayant besoin de sortir d'un certain milieu, et puis d'abord en jouant un rôle au sein de la famille ou en essayant de devenir une autre, et puis en créant, alors là, pour le coup, votre vie à votre image.
Oui. Oui, puis je n'avais pas le sentiment d'agir par rébellion, mais j'avais le sentiment de pas correspondre avec ce qu'on avait imaginé que je ferais ou que je serais. Puis il y avait quelque chose d'épeurant, parce que le désir de convenir à ses parents est quelque chose de fort et d'ancré. Mais il y avait quelque chose de grisant aussi, d'être là où on ne nous attendait pas. C'était quelque chose d'enivrant aussi. Puis encore aujourd'hui, même si l'expérience fait en sorte qu'il y a une espèce d'habitude, quelque part, de vivre de cette façon-là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout banal pour moi. Souvent, je me redis encore, hey, oui, dans la vie, je fais du théâtre. C'est ça que je fais, moi. C'est pas autre chose. C'est pas un loisir. C'est pas une activité. C'est ma vie. C'est une partie très importante de ma vie. Et ça me procure encore beaucoup, beaucoup d'excitation de constater ça.
En fait, c'est aussi une chose. Je suppose qu'aujourd'hui, vos parents sont fiers de vous.
Oui, en tout cas, ils me le disent.
Non, je dis ça parce que finalement, ça rentre dans l'ordre. Celui qu'on évoquait tout à l'heure, je ne sais pas lequel c'est, mais celui qu'on évoquait tout à l'heure, mais avec le temps, avec le long terme et avec le fait que ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas parce que vous avez ce démarrage fulgurant, finalement, il rentre dans un sillon et dans quelque chose qui est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire se concentrer sur un sillon et le suivre et le creuser et l'approfondir. Ben donc, c'est là où vous prouvez que, bon, c'est pas une sorte de bêtise de jeunesse.
Non, je crois que le travail fait en sorte que je suis en train de devenir et que je vais devenir, je l'espère de tout mon cœur, une meilleure artiste, une meilleure auteure. J'ai envie de me dépasser et puis de poursuivre ce chemin-là. Mais après, est-ce que les gens vont me suivre dans ce travail-là? Est-ce qu'on va m'accorder cette place privilégiée que j'ai aujourd'hui dans le milieu théâtral? Est-ce qu'on me l'accordera longtemps? Je ne sais pas. Vous voyez, je ne vous blâme pas, mais tout à l'heure, vous avez dit « elle est jeune », tout ça.
Oui.
Ben moi, un jour, je me dis « OK, il y a un jour là, où ils ne pourront plus me présenter en disant « elle est jeune », tout ça ».
C'est sûr, un jour ça viendra.
Un jour ça viendra. Mais, non, mais je m'en méfie de ce jour-là parce que je suis très, très lucide et je sais que ma jeunesse a fait en sorte aussi que mon travail s'est mérité cette attention-là. C'est pas seulement la qualité du travail, c'est pas vrai, je le sais. C'est parce que tout à coup, elle a 23 ans, ceci, la jeune fille, la jeune femme, c'est une femme, une jeune femme. À un moment donné, la jeune femme, elle ne va plus être jeune. Puis là, je vais encore travailler, puis je vais encore avoir envie de montrer mon travail. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer.
Mais vous ne me blâmez pas, moi, je ne me justifie pas.
OK.
Mais est-ce que je... Non. D'abord, j'avais pas la main. Je pensais que vous aviez, je ne sais pas très bien, là, en fait, aujourd'hui, les femmes, je ne sais pas très bien quel âge leur donner. Donc, je ne m'étais
pas
attardée à ça. Puis, d'un coup, j'ai lu la date de naissance et là, j'ai commencé à compter. Je vous ai dit, c'est des entrevues où on compte.
Oui.
Je vous ai dit, parce que là, on compte les livres. Évidemment, on fait le chemin à rebours. Et là, c'était plutôt par rapport au parcours et justement pas par rapport à la jeunesse en tant que telle. C'est une vertu improbable.
Bon. Bien sûr.
Mais,
oui.
Mais par rapport au fait qu'il y a peu d'années, mais qu'elles sont très denses et qu'elles sont justement extrêmement cohérentes. C'est ça qui est frappant dans ce parcours, parce qu'on ne va pas rester à 1997, il va falloir qu'on avance, justement. Et ça avance vite, vite peut-être, mais dans le même, surtout dans ce sillon que j'évoquais. C'est surtout ça que je voulais dire, en fait. Mm-hmm. C'est qu'en 10 ans, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui s'est perdu ou éparpillé, mais au contraire, concentré sur son travail. C'est l'impression que ça donne.
Ben, je vous remercie. J'ai le sentiment de m'être concentrée sur mon travail. J'ai eu envie de... J'ai pas eu envie de réfléchir à... qu'est-ce qui a fait que telle chose a fonctionné? Je devrais aller dans ce sens-là. J'ai pas du tout cédé à ça, ce qui aurait pu se produire, mais j'ai plutôt eu envie d'être de plus en plus exigeante avec moi-même, de comprendre aussi ce que je faisais.
Oui.
Parce que des fois, quand on commence à écrire, ce sont des espèces de jets très peu contrôlés, très peu maîtrisés, qui peuvent donner de belles choses, mais à long terme, je ne crois pas beaucoup à ça. Et même si ça peut paraître moins romantique, je trouve que c'est qu'un travail d'artiste est d'autant plus valable quand il est compris et maîtrisé. Sûrement pas entièrement, parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui nous dépassent quand on écrit ou quand on crée, puis ce sont d'autres personnes qui vont des fois mettre la lumière sur...
Oui.
Oui, mais cependant, oui. Je crois que l'acte créateur est malgré tout un acte de contrôle,
oui.
et de conscience de ce, qu'on, de ce qu'on est en train de créer.
Et de re-re-re-travail.
Et de re-re-travail. Oui. Parfois, on n'aime pas trop cette idée-là par rapport à l'art. Je trouve en tout cas qu'on privilégie ou en tout cas on est plus amoureux de l'idée que justement que ça jaillit et que ce sont les gens possédant ces dons-là, ces espèces d'élus-là, qui vont créer comme ça en étant justement en usant de leur liberté exclusivement. Mais pour moi, la liberté, c'est justement pas n'importe quoi, je suis libre. La liberté, c'est de dire, OK, je suis conscient qu'on est tout sauf libre, parce que notre pensée est sans cesse orientée, sans cesse diffuse, oui. distraite.
Mais en fait, c'est la liberté du créateur, c'est de s'être imposé ses contraintes, mais après ça, il doit se les imposer lourdement.
Oui, il doit se forcer à être libre.
Oui.
C'est un effort d'être libre. C'est pas une permission. C'est pas juste une permission, en tout cas. Ça l'est aussi, mais c'est pas juste ça. C'est un effort de dire, justement, je me sens flyée, là, j'ai pensé à telle affaire, mais... Mm. Mais ça suffit pas. Faut travailler plus, je trouve.
Alors justement, si on regarde l'ordre des pièces entre personnages secondaires 97, au bout du fil 99, des fraises en janvier. On ne peut pas s'arrêter sur toutes les pièces, mais quand même sur des pièces qui ont été marquantes. Alors je vais vous dire une anecdote tout à fait personnelle. Je suis arrivée à Montréal en 98, je ne vous connaissais pas, puis en 99, bon évidemment je travaillais à Radio-Canada, donc j'ai entendu parler de vous rapidement, mais la personne qui m'a parlé des fraises en janvier, c'est mon fils, qui avait à l'époque 15 ans,
ah oui.
et qui était allé voir avec sa copine, qui en avait 17 ou quelque chose comme ça, cette pièce-là, et qui est revenue... vraiment, avec beaucoup, beaucoup de compliments, tout à fait spontané.
Ah, ça me fait plaisir.
Et, non, mais c'est une autre... bien sûr, j'avais aussi, bien sûr, tous les échos. Et c'est comme ça qu'après, je suis allée voir vos pièces. Donc, en fait, c'était vraiment... Et pourquoi ? Parce qu'il trouvait... Alors, lui, qui aussi venait de France, et puis d'habitude théâtrale différente... une voix, un propos, un sujet, une façon de le traiter qui l'avait profondément touché.
Ben, j'en suis très contente. Puis c'est vrai que cette pièce-là, elle a été importante parce que ben, ça a été une espèce de succès populaire.
Oui.
Puis c'est ça qui a fait après que les gens ont été curieux de mon travail. Même si après, j'ai fait des choses qui ressemblait pas trop à ça. Ce succès populaire pour cette comédie romantique très accessible, très très fraîche, ben ça a été une espèce de coup d'envoi, je dirais, de la curiosité des gens à mon égard, puis de la considération de mes pairs. Mais après aussi. J'ai dû m'en méfier pour justement pas je parlais de ne pas céder à la tentation de refaire ou de recommencer.
Ben oui, mais ça n'a pas été refait, mais cette pièce-là, en tout cas, elle a été rejouée.
Oui, oui.
Et encore récemment, puisque justement vos pièces sont traduites. Quel est votre rapport à la traduction des pièces? Est-ce que vous vous sentez dépossédée? Est-ce qu'au contraire, vous êtes curieuse? Vous allez les voir? Comment vous les voyez évoluer?
J'y vais pas tout le temps, mais quand j'y vais, des fois j'aime ça, des fois j'aime pas ça. Mais ce que j'aime surtout, c'est le contact avec les traducteurs. C'est-à-dire que j'ai un lien privilégié avec certains traducteurs en anglais, en allemand, en espagnol. Ce sont les mêmes qui travaillent avec qui on travaille. Puis ce sont eux-mêmes des dramaturges. La plupart du temps, les gens qui écrivent du théâtre sont eux-mêmes auteurs de théâtre parce que, justement, il faut, d'après moi, un sens de la dramaturgie pour traduire et bien traduire du théâtre.
Oui.
Alors, au-delà des considérations de traduction, ça nous amène à parler de la dramaturgie ensemble et de comprendre les rouages de la pièce, pourquoi telle chose est difficile à traduire, pourquoi... Et ce regard sur son travail est quelque chose d'extrêmement riche à vivre.
Donc, vous préférez encore une fois l'atelier.
Ah oui. Oui, oui. Oui, parce que même souvent, pour être très, très franche, des fois, quand on a la chance d'assister à son travail traduit puis monté, ça veut dire qu'il y a eu un grand laps de temps entre le moment où on l'a écrit puis le moment où il a été... Donc, monté, puis ensuite plus tard traduit, puis ensuite plus tard remonté. Et dans ce laps de temps-là, des fois, on a pris un peu de recul, puis là, on n'est plus si content de soi. Alors là, des fois, on est dans le théâtre, puis on le regarde, mais on a un peu honte, puis à la fois, ben, on ne veut pas dénigrer ça, parce que là, des gens, ils l'ont mis en scène avec beaucoup d'amour pour cette pièce-là. Alors, il ne faut pas non plus bouder le plaisir. non, je vis ça à l'intérieur.
Oui.
Mais je suis rarement... ce qui me rend excitée et fière, c'est ce qui est en chantier, parce que forcément, c'est ce qui correspond le plus à ce que j'ai envie de faire. Ce qui est passé, ben souvent, je regarde ça puis je fais comme il faut que je fasse mieux quand même la prochaine fois. Puis j'espère que personne ne va s'en apercevoir. Puis des choses comme ça.
Ça, c'est une chose qui n'arrive pas quand on contrôle tout. quand on fait la pièce, qu'on la met en scène, qu'on joue dedans, enfin, c'est une façon de... Il y a eu d'autres épisodes aussi
dont
on va parler maintenant.
Mais ça, c'est un aspect, c'est un type de création très, très particulier.
Très particulier, oui.
Que j'ai fait et que je fais avec Daniel Brière,
oui.
Qui est donc, oui, mon conjoint, mais qui est aussi un complice de travail... que je n'ai pas rencontré ailleurs ou d'une autre façon. Et cette relation de travail fait en sorte que, tout à coup, quand dans notre co-conception de spectacle, c'est vraiment une machine à deux. Même si concrètement, c'est moi qui écris les mots, c'est une co-écriture dans la mesure où on pense non pas une pièce de théâtre, mais on pense quel moment on souhaite qu'il se déroule sur scène. Donc, c'est la conception d'un spectacle dans son tout. Et ça,
oui.
c'est un rapport à l'écriture très, très différent, ces projets-là.
Mais c'est sûr que là, c'est une relation qui est unique et privilégiée, celle-là. Mm-hmm. Mais j'aimerais bien que vous m'en parliez après l'autre dont je voulais parler. On a sauté une case qui est celle du travail avec Jean-Pierre Onfard aussi.
Ah ben oui.
Et quand même. Et puis, cette pièce, Yann Ardagh aussi, qui est un nouveau sujet aussi qui apparaît, que vous allez creuser peut-être aussi avec Bachir Lazare.
Oui.
Et votre arrivée au Nouveau Théâtre Expérimental. Ça, c'est toute une période en autre Big Bang dans votre vie, créatrice,
oui.
En 2001.
Oui, alors je ne me rappelle plus dans l'ordre, mais c'est ça, en tout cas, j'y ai joué, j'ai participé à des ateliers. Daniel Brière et moi, on a joué notre première création commune ensemble. Mais c'était à l'époque où Daniel n'était pas directeur lui-même. C'était vraiment, on était tous les deux des artistes invités, donc par Jean-Pierre Onfard. Puis le projet le plus intime que j'ai vécu avec Jean-Pierre Onfard a été l'écriture et la conception de ce jeu de théâtre Aphrodite en 04.
Oui.
Alors c'est Jean-Pierre qui avait eu cette idée-là, il avait envie... il était tanné des problèmes d'horaire, puis des problèmes d'acteurs qui ne savent pas leur texte, puis de tous les problèmes. Là. Il dit, hey, je suis vieux, je ne veux plus de problèmes. Alors, il avait imaginé un jeu qui était assez simple. Il donnait un contrat à 8 jeunes acteurs qui devaient se dédier à ce projet-là pendant tout un mois, jour et soir, parce qu'en fait, le mois des représentations serait le mois où ils répéteraient. Donc, c'est-à-dire que les répétitions se faisaient le jour pour le soir même, avec une évolution dans la mise en scène et dans le texte. Et mm-hmm. moi, je devais assister à chaque représentation pour amener du matériau neuf le lendemain pour qu'ils répètent.
Ça, c'est comme les scénaristes d'Hollywood. Avant, ils écrivaient les scènes
c'est ça.
Qui devaient être jouées le matin.
Mais lui, ça lui évitait de se casser la tête avec les horaires, les disponibilités oui, d'acteurs. Je comprends. Oui. Parce que s'ils acceptaient ce contrat-là, ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas faire de la télé en même temps, des voix en même temps, un autre truc en même temps. Ils devaient donner un mois. Après, s'ils n'avaient pas envie, ben, ils ne faisaient pas le contrat. C'était comme ça, ce n'était pas compliqué. Alors, j'ai écrit le texte, mais en étant très, très proche de lui, c'est-à-dire que chaque semaine, je lui apportais où j'en étais, tout ça. On a beaucoup, beaucoup échangé. C'était de très, très beaux moments de création. Mais malheureusement, il est décédé avant de pouvoir faire le jeu. Alors, tout était prêt, mais
2003, c'est ça.
Oui, 2004. 2003,
je pense.
Oui, 2003, puisqu'on l'a présenté en janvier 2004. Vous avez raison. Ouais. Donc, c'est Jacques Lheureux qui en a fait la mise en scène. Mais c'était le projet de Jean-Pierre. C'était vraiment son projet à lui.
Alors, justement, il y a cette collaboration, et pas seulement cette collaboration dans la vie, sur scène et dans la création avec Daniel Brière, qui est unique et qui est aussi extrêmement créatrice et productive, parce que vous avez fait trois pièces ensemble, dans lesquelles vous êtes à la fois interprété et mis en scène, et dans lesquelles vous êtes des couples aussi, comme dans la...
En fait, dans l'une d'entre elles, on est un couple. Dans l'autre...
Donc, c'est des couples, pas toujours des couples
mariés, d'accord.
Mais
oui, c'est vrai.
Comment ça s'est mis en place d'abord? Est-ce que c'était la relation elle-même qui a donné... Est-ce que c'est la relation elle-même qui a donné lieu à ça, c'est-à-dire qu'elle était dès le départ créatrice?
Notre amitié et notre amitié artistique a précédé notre histoire d'amour. Alors déjà, il y avait cette relation-là dans le travail. Puis après, justement, je me rappelle qu'une des impulsions qui nous a fait travailler non seulement ensemble sur un projet, mais sur un projet qui serait en partie autobiographique parce qu'il s'agissait d'un couple. On représentait un couple d'amoureux, dans Henri et Margot, donc. C'était justement... On avait un peu de lassitude par rapport à cette pudeur qu'on avait de s'afficher comme couple, parce que là, tout à coup, si on avait le désir de travailler ensemble, ah oui, mais c'est un couple. Il y a une espèce de préjugé aussi là-dedans, dans le milieu, hein, de justement, bon, le chum, il va engager sa blonde, est-ce que c'est valable quand même, artistiquement, justement? Mmh. Et alors, pour s'amuser, tout simplement, mais aussi pour justement faire... Ben, on est un couple, puis on... Ça va, on va pas le cacher, puis on aime travailler ensemble aussi. Alors, tiens, on va faire une pièce, et puis on va s'embrasser devant vous comme un couple. Puis dans la pièce, on parle de ça. Et puis, ça a été tout un jeu de miroir et de... qui finalement... a parlé aussi de choses importantes et profondes sur la relation de couple, mais qui a été aussi notre espèce de jeu de mise en scène pour s'afficher une fois pour toutes, puis revendiquer que notre travail artistique commun avait une valeur complètement indépendante de notre relation amoureuse.
Pourquoi on en doute? Alors que là aussi, on peut se référer à une longue histoire des couples au théâtre.
Il y en a, mais il y a quand même un malaise parce que justement, parfois, des couples vont ou bien systématiquement s'engager l'un l'autre.
Oui.
Alors que des fois, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Ou alors, des couples vont s'interdire de s'engager l'un l'autre pour éviter les « quand dira-t-on » ou les justifications. Et ça, les deux sont malheureux, d'après moi. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il y a une
espèce de... Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a aussi de formidablement créateur, le fait que ce soit une relation de vase communicant, mais aussi très interactive, alors qu'on est beaucoup, ou on a été beaucoup habitué au théâtre, au Pygmalion, quoi, ou truc assez. Où il y en a un qui fait l'autre, ou qui est le support de l'autre.
Oui.
C'est ça qui provoque la suspicion.
Vous avez tout à fait raison. J'ai pas mentionné ça, mais c'est vrai, c'est que des fois aussi. L'histoire fait en sorte qu'il y a un déséquilibre aussi dans le rayonnement ou la place attribuée aux deux artistes qui forment un couple. Puis c'est vrai que quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça devient plus délicat, le rapport. Et puis, dans notre cas, tous les deux, on a la chance de ne pas dépendre l'un de l'autre. Chacun d'entre nous a un chemin indépendant, qui est riche d'autres rencontres artistiques puis d'autres projets. Donc, il n'y a pas de déséquilibre ou de dépendance. Quand on s'unit pour travailler, c'est un véritable choix artistique, une véritable envie artistique. Mmh. Et ce n'est pas faute de travail. Donc, c'est sûr que ça aide.
Puis
beaucoup.
Des identités qui sont déjà bien... qui sont déjà bien spécifiques, des identités créatrices aussi.
Oui, aussi. Oui.
Qui fait que ce sont deux créateurs dans deux pôles et puis qui peuvent avoir envie de se rejoindre.
Voilà.
Donc, c'est complètement différent.
Oui.
Mais alors, à quel moment est-ce que justement... donc, vous avez parlé de Henri Margot, mais à quel moment il y a aussi Nick Retour, Mademoiselle? Et
oui.
Puis la dernière pièce,
Le plan américain.
Plan américain. Oui. À quel moment est-ce que ça s'impose que justement chacun sort de ce qu'il a à faire, soit comme directeur de théâtre, comme acteur, soit plutôt comme auteur et comme actrice ailleurs, pour que ça devienne un projet commun?
Mais on délibérément crée de l'espace pour ça, parce qu'on sait que sinon ça nous manque. Moi, comme artiste, je suis consciente d'aller dans des endroits que je ne visite pas autrement, parce que c'est cette relation artistique-là qui me dirige vers ces zones-là et que je me sens me dépasser comme créatrice. Je crois que c'est la même chose du côté de Daniel, parce qu'il l'exprime de la même manière. Donc, il faut que, dans un acte très, très volontaire, on se dise « OK, on est occupé, mais là, faut prévoir une plage de temps où on puisse réfléchir ensemble et proposer quelque chose ensemble. » Alors, jusqu'ici, ça s'est fait, j'ai pas calculé, là, mais aux 3 ans à peu près, aux 2-3 ans. Moi, j'aimerais...
Oui.
Ben, j'aimerais ça que ça soit davantage, mais pour l'instant, bon, les choses sont comme ça. Puis on veut aussi... On s'est dit aussi que ces aventures-là... justement parce qu'on les choisit puis qu'on les privilégie, on veut qu'elles soient exemptes de toute pression. Là. On ne veut jamais être pressé dans le temps, on ne se met jamais de pression, donc on prend le temps et tout le temps pour...
Ben oui, et puis il y a toujours cet approfondissement que vous... Ça me fait penser un peu, j'ai déjà entendu Agnès Jaoui parler de sa collaboration avec Jean-Pierre Bacri.
Ah ben oui.
Quand ils décident d'écrire un film, ils donnent rendez-vous et pendant 2 heures, ils n'ont pas le droit de parler d'autre chose que du film parce que ce n'est pas le temps de parler des placards à réparer, etc., ou des enfants qui courent. Mais c'est vrai que ça demande encore une autre discipline à l'encontre de ce qu'on imagine. Tout à l'heure, vous parliez du travail,
oui,
et de la discipline.
Mais
c'est pas parce qu'on est en couple que ça va plus facilement.
Ben non,
parce que c'est plus difficile, peut-être.
Mais c'est plus difficile... Oui, parce que c'est plus long, dans le sens où quand tu es tout seul, tu n'as pas besoin d'expliquer à ton partenaire. Tu travailles seul, tu avances. C'est exigeant et c'est long d'expliquer à l'autre son,
oui,
idée. Même si c'est ton grand complice puis qu'on se comprend rapidement, il faut nommer les choses, les verbaliser, entendre. Tout ça est extrêmement long, mais tout ça fait aller extrêmement loin aussi, parce que parfois, on est obligé d'être d'une grande, grande rigueur dans cette communication-là de nos idées à l'autre.
Mais la collaboration, en général, de toute façon, semble, quand on regarde votre parcours, très importante, parce que je regarde aussi une collaboration comme celle de Chinoiserie avec Catherine Tardif, qui est avant tout une danseuse, pas uniquement, mais aussi une danseuse, une chorégraphe. Aussi la commande qui vous a été faite pour l'héritage de Darwin, cette pièce-là délibérément pour les adolescents. Donc, toujours la part de l'autre différemment, que ce soit un mentor ou quelqu'un qui inspire, ou le compagnon, ou les gens, c'est vraiment... Puis c'est ce qui fait la spécificité du théâtre, mais chez vous, ça a l'air extrêmement important, c'est-à-dire à la fois spécifier son territoire et à la fois veiller à rester poreuse.
Oui, oui, c'est tout à fait juste. Puis c'est aussi que j'ai eu la chance, justement dans les projets de commande ou de collaboration, de me sentir très, 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 très respectée, puis très, très invitée à aller justement vers mes impulsions fondamentales ou ce que j'ai envie justement d'écrire. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été des aventures où je me suis sentie bâillonnée, censurée ou surdirigée. Au contraire, ça a été chaque fois des invitations à accueillir mon travail quel qu'il devait être. C'est-à-dire oui.
Et qui vous ont permis de mener votre travail plus loin?
Sans doute. Sans doute. Et surtout de voir mon travail accueilli.
Oui.
Parce que j'aurais pu écrire autant sans être montée, sans être jouée. Ça, j'en suis très consciente. Et puis, je crois que ça fait beaucoup évoluer que d'être montée et jouée. Parce que dans tout ce processus-là, on apprend énormément sur sa propre écriture et sur le théâtre.
Mais justement, c'est une des questions que je voulais vous poser avant de finir. On arrive vers la fin de notre entrevue, dans 10 minutes. Mais comment une pièce vient-elle de l'autre? Comment est-ce qu'une pièce naît de la précédente? Et quel est ce processus-là pour vous? Comment est-ce qu'il s'opère? Comment les sujets viennent? Et comment est-ce qu'une pièce donne naissance à la prochaine?
Je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai toujours beaucoup de difficultés à répondre à ça parce que c'est très peu conscient.
J'ai pas à être déçue.
Ah! Non, mais j'ai souvent
j'ai pas d'attente. Non, je veux dire.
J'ai souvent l'impression
c'est toujours le mystère.
Oui, c'est le mystère. Puis j'ai beaucoup l'impression de travailler par retrait plus que par accumulation. C'est-à-dire que souvent je vais écrire beaucoup, 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 puis après je vais retirer le superflu, le truc qui n'est pas juste, qui est pas. Et donc j'ai l'impression souvent de la part, justement, j'en parlais, la part d'impulsion peu maîtrisée, peu contrôlée,
oui.
Elle se fait dans une quantité d'écriture où je me laisse très très libre là-dedans. Et là où intervient davantage le travail et la rigueur, c'est dans devenir conscient de cet objet-là qui doit être transformé ou abouti ou contrôlé pour prétendre à devenir un objet d'art et non un objet de... Comment on appelle ça?
C'est pas une logorée.
C'est pas une logorée, c'est pas...
Mais il faut une logorée au début, enfin, c'est ça.
En ce qui me concerne,
oui. Ça renvoie à une autre question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez que vous auriez pu ou que vous avez envie que vous écrirez, je ne sais pas, peut-être un roman? Parce que la différence est dans le silence, évidemment. Le roman, c'est la transmission du silence. Et c'est ça qui rend les choses pérennes et éternelles aussi. Et le théâtre passe justement par de la communication. C'est de la communication, alors que le roman, c'est de la communion. Ça se passe dans le secret du silence, entre deux personnes qui ne se voient pas, qui ne se touchent pas, etc. Est-ce que pour vous, c'est fondamental que votre écriture soit destinée à l'oralité et... Ou est-ce que vous verriez écrire d'autres choses sous une autre forme, qui serait une autre forme de communion?
J'aurais très envie, dans l'absolu, d'écrire un roman, pour les raisons que vous évoquez, et aussi pour...
C'est-à-dire pour la transmission du silence ou pour...
Oui, puis pour l'intimité de la relation.
Ah oui, l'intimité, oui.
Et la non-interférence entre l'écriture et la réception de cette écriture-là. Puis aussi... mais encore une fois, c'est un désir. Je ne sais pas si j'en serais capable, je ne sais pas, mais c'est aussi très tentant pour l'écriture parce que écrire du théâtre, c'est écrire du temps.
Oui.
Puis la conscience du temps est une obsession. On écrit justement le déroulement d'un moment, dont les mots vont être entendus une seule fois dans cet ordre-là. Donc, il faut avoir la notion du temps très, très claire, puis ça donne lieu à beaucoup d'interdictions, d'auto-interdictions.
Ben oui.
Tandis que dans le roman, j'ai le sentiment, ou en tout cas, je pressens que, quelque part, mon écriture trouverait une nouvelle forme de liberté, parce que le lecteur, s'il est saturé, il peut déposer le livre puis revenir plus tard, tandis que ce n'est pas possible au théâtre.
Ah, mais vous le savez très bien, mais c'est vrai que la forme romanesque, enfin, abolit le temps sur tous les plans. C'est-à-dire qu'un livre peut mettre 5 ans à s'écrire, 20 ans, toute une vie, paraître à titre posthume, être lu 2000 ans plus tard, rester sur la tablette pendant 15 jours. Justement, il n'y a pas cette contrainte-là. Mais c'est ça aussi qui est la frayeur. C'est ça aussi qui le rend effrayant.
Oui, oui, c'est vrai, ça le rend effrayant. Mais en tout cas, j'ai ce désir-là. Je ne sens pas que mon écriture est strictement dédiée au théâtre ou destinée au théâtre. Je crois que j'ai envie d'explorer aussi d'autres choses.
Mais alors, la question qui va avec ça, c'est est-ce que vous traiteriez les mêmes sujets ? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que chaque sujet ne nécessite pas sa forme, d'une certaine façon ? Est-ce que vous auriez traité Bachir Lazare ou Yann Ardagh ou même Henri et Margot en roman ? Est-ce que forcément, c'est tout à fait autre chose ?
Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je ne suis pas certaine de savoir encore y répondre, mais intuitivement, je dirais que ce serait très différent dans l'écriture, mais probablement, somme toute, à peu près les mêmes sujets, parce que j'ai très peu d'imagination. Je parle toujours des mêmes choses, hein, grosso modo. Oui. On revisite les choses qui nous obsèdent, on essaie de les approfondir, on essaie de... Donc, je ne crois pas que tout à coup, ce serait tant dans le sujet qu'on irait ailleurs...
Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pour lui donner une autre forme, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas une question de thème. C'est le même thème, c'est votre univers, votre obsession, vos obsessions. Mais en même temps, c'est sûr qu'il doit, il va peut-être s'exprimer différemment, parce que le temps de travail ou d'approfondissement n'est pas le même. Justement.
Mais j'imagine, puis il y a une espèce aussi d'attardement dans le roman que je trouve très beau et dans l'idée me séduit pour l'essayer éventuellement. C'est que justement, on peut s'attarder davantage, il me semble, qu'au théâtre.
Est-ce que vous lisez toujours des pièces de théâtre ou vous lisez plutôt des romans ?
Je ne lis pas de pièces de théâtre. J'aime pas ça.
C'est ça. Est-ce que la pièce de théâtre est destinée à être lue ? Je sais qu'on a dû en lire un paquet à l'école.
Tout le monde dit des choses différentes. Je crois que c'est très personnel. Il y a des gens qui adorent lire du théâtre, il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'aime pas ça du tout. J'ai un vrai handicap. Je peux pas faire partie d'un... On me demande parfois d'un jury ou quelque chose comme ça parce que j'ai pas accès à la pièce de théâtre. Ce serait très malhonnête de ma part de mettre dans une position de juger le travail de quelqu'un de cette façon-là ou de comparer des pièces, puisque de toute façon, j'aurais aucun plaisir à lire ni l'une ni l'autre. Donc, je ne fais pas partie des lecteurs de théâtre. Mais je trouve ça beau et important de publier le théâtre parce que, d'une part, l'acte est tellement éphémère, ça permet d'archiver une écriture.
Ah oui, ça, c'est...
Oui, puis ensuite aussi, ça permet à des gens qui ne vont pas au théâtre de pouvoir éventuellement lire ça. Puis j'ai pas, je fais pas du tout partie des gens qui ont ce complexe là de pas considérer que la dramaturgie est un genre littéraire. Là, je considère que c'est de la littérature complètement.
Ça veut justement dire que le théâtre est destiné à être livré par un comédien.
Ah, ben oui. Pour moi, c'est une partition. J'emploie souvent ça, puis je trouve que c'est vrai. Quand j'écris du théâtre, j'ai l'impression d'écrire des partitions, puis je me dis, pourvu que cette partition soit quelque chose d'agréable, de laquelle s'emparer, de riche à fouiller pour un interprète, ça me préoccupe même avant de penser à la réception du public, j'ai un grand respect pour le public qui va au théâtre, mais c'est d'abord un outil pour des interprètes, pour moi.
Alors, est-ce que outre les pièces, bien sûr, que vous écrivez, par exemple, avec Daniel Brière, et que là, vous savez qui va interpréter quoi, est-ce que ça vous est arrivé d'écrire pour quelqu'un, en pensant précisément à qui va l'incarner, cette partition?
À part dans ces projets précis où c'est justement prévu d'avance, non.
Donc, c'est quelque chose que vous vous dites dans votre tête, parce que ce que je voulais dire par là aussi, c'est l'autre chose, c'est que c'est vrai, quand on lit ou on écoute vos pièces, enfin, moi, dans mon cas, les voir au théâtre, on se dit, mais toute cette spontanéité aussi, cette concision, c'est beaucoup de travail. Donc, ça veut dire comment vous faites pour rendre et arriver à cette épure dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous les dites vous-même?
Non, je ne parle jamais à voix haute, mais je crois quand même que c'est une écriture qui est fondamentalement auditive.
Oui.
Parce que c'est vraiment une musique, c'est un rythme. Je l'entends quand ça sonne juste ou pas à mes oreilles, mais internes. Je ne vais jamais comme dire, non, je me sentirais trop ridicule. J'écris pas en parlant.
Alors là, on va laisser la parole à notre public qui peut poser des questions, mais j'avais une dernière question, parce que vous avez une nouvelle pièce, après toutes celles qu'on a rapidement passées en revue. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Désordre public, quand même, qui vous a valu le prix du gouverneur général, le texte, est issu de Aphrodite 04.
Oui. Oui, ça, a
ça
été
c'est
un
aussi
peu...
la pérennité de la pièce.
Oui, c'est très...
Un clin d'œil de Jean-Pierre Enfin.
Oui, oui. Et oui, la prochaine création, c'est à Espace Go, ça s'appelle Les Pieds des Anges. Et puis, c'est monté par Alice Ronfard, qui avait monté à Espace Go des Ordres Publics aussi. Et puis, ils vont commencer donc le 31 mars.
C'est ça là, dont on a fait la première pré-entrevue. En fait, on n'a pas parlé de la pièce.
Non, mais c'est
non,
pas
mais
vrai.
C'est au moins l'annoncer. Je ne savais même pas en venant vous rencontrer aujourd'hui.
Ok.
Alors, je vais... merci beaucoup.
Merci, c'était très agréable.
Je vais, comme on fait toujours ici, à la fin de l'entrevue, laisser la parole à notre public. Vous avez les micros de chaque côté. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Evelyne de la Chenelière.
Alors bonjour, merci pour le partage, pour l'honnêteté aussi. Ça fait du bien d'avoir un discours qui n'a pas juste un désir de se protéger, mais qui a une vulnérabilité aussi derrière le propos.
Merci, mais c'est vrai, je me suis sentie très impudique. Là. Je ne sais pas si je suis contente, mais en tout cas, merci.
Mais en tout cas, moi j'apprécie ça.
Ah, OK, voilà. C'est bien.
Donc, ma question, c'était en lien avec un truc que j'avais lu dans le journal ici, puis je pense qu'il faisait référence à un texte dans Spirale. Puis c'était un texte assez critique, puis j'étais allé le lire dans le magazine en question. Puis suite à ça, je m'étais demandé quelle était la réaction du milieu théâtral face à ce texte-là et à quel genre de place il y avait pour cette critique-là assez radicale du milieu.
OK, oui. Mais je veux juste dire de quel texte il s'agit pour que... Merci. C'était la revue Argument, en fait, qui m'avait demandé d'écrire à partir d'un ouvrage qui parlait de « Y a-t-il une crise de la culture au Québec? » Et puis, le texte que j'avais écrit donc pour la revue Argument avait été publié dans un quotidien. Puis, c'était une critique du milieu, mais une autocritique en même temps. Là, je ne m'excluais pas de ce phénomène-là, mais en gros... Je trouvais que souvent on expliquait le manque parfois d'aboutissement de certaines de nos propositions, on ne l'expliquait que par le manque d'argent et le manque de soutien de nos politiciens et de nos subventionneurs. Puis je disais que oui, effectivement, mais j'ajoutais une bémol en invitant aussi à peut-être à nous, à nous évaluer artistiquement. Est-ce qu'on va vraiment au bout de ce qu'on devrait aller comme créateur? En tout cas, en gros, c'était ça. Puis, pour répondre à votre question, ça m'a beaucoup appris sur la nature humaine. J'ai trouvé ça formidable parce que personne n'était fâché, parce que chacun pensait que je parlais de quelqu'un d'autre. Alors, tout le monde, j'ai eu des appels. « Waouh, c'est vrai! Ah, oui, c'est vrai! » Mais là, alors, tout le monde a dit « Waouh, c'est vrai! » Et c'est beau quand même, hein? Donc là, on sait jamais c'est qui que j'ai visé. Mais donc pour répondre un peu plus sérieusement, c'est en partie vrai ce que je dis. Ce que j'ai trouvé positif, c'est que ça a suscité le débat. Tu sais, on m'a parlé du fait que ça a fait en sorte que des compagnies, entre elles, sont parties de ce papier-là pour parler de toute la structure qui entoure l'acte théâtral, de comment s'inscrire dans cette structure-là, malgré et avec cette structure-là. Donc, ça a donné lieu à des échanges riches, mais à la fois et très humblement, je crois que ça a fait un peu de bruit comme ça, et puis ça a été bien vite oublié, comme beaucoup de petits coups de gueule, parce qu'on est à l'ère des petits coups de gueule, alors c'est un peu un parmi tant d'autres.
Est-ce que vous avez trouvé, justement, dans le nouveau théâtre expérimental, ce que vous cherchiez dès le départ, c'est-à-dire une façon différente d'exercer ce métier? Et c'est quand même une expérience, une structure théâtrale tout à fait spécifique.
Oui, mais ce qui est amusant, c'est que comme je n'avais pas connu autre chose... je ne peux pas nommer en quoi elle était différente. J'étais juste assez équipée pour reconnaître que je m'y sentais bien.
Oui, mais aujourd'hui?
Aujourd'hui, je me rends compte bien davantage de la chance que j'ai eue de tomber sur justement des gens qui pensaient le théâtre de cette façon-là et avec lesquels j'ai pu reconnaître. C'est aujourd'hui, oui, qu'effectivement, que je peux voir toute l'ampleur de cette différentes approches des choses.
Est-ce que vous voyez toujours travailler dans ce même réseau, ce réseau dont on parlait? C'est ça aussi, c'est votre réseau entre le Nouveau Théâtre à l'Espace Go, avec des théâtres et tout un réseau de personnes bien spécifiques.
Ben, j'aime le phénomène qui fait que justement mon réseau est vaste, puis je rencontre c'est plusieurs directions artistiques, plusieurs façons. J'aime ça. Mais si je dois nommer quel est mon noyau puis ma véritable parenté, c'est toujours avec le Nouveau Théâtre expérimental et plus particulièrement avec Daniel Brière.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On va mettre un terme à cette conversation à deux et à plusieurs. D'ailleurs, dans Plan américain, c'est aussi une partie des propos et une critique du milieu, un peu, une sorte de façon de,
oui, ben,
de faire des gros plans.
Oui, dans notre rapport à l'image, oui, très vastement, là, mais oui.
Dans le rapport à l'ego.
Aussi.
C'est comme ça qu'on revient au début de l'entrevue.
Bravo, très habile.
Mais c'est tout à fait hasardeux. Bien, alors merci infiniment.
Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance donc avec la nouvelle pièce à partir du 31 mars à l'Espace Go.
Merci.
Et nous, on se retrouve le mois prochain avec Émile Martel. Merci beaucoup.